peu craintif qu'il s'agit de transmettre la parole de Dieu particulièrement aujourd'hui, parce que ce sont les paroles même de Jésus qu'il faut interpréter et transmettre, et c'est toujours une lourde responsabilité de devoir transmettre les paroles du Maître. Alors la scène se passe en 1923 et nous sommes dans un hôtel de Chicago aux États-Unis, et là il y a sept parmi les sept hommes les plus riches du monde qui sont réunis dans un hôtel. Ce sont des hommes à succès, des hommes qui ont réussi dans la vie, des hommes qui sont milliardaires. Donc parmi eux il y a le président de l'une des plus grandes aciéries privées du monde, le directeur de la plus grande compagnie d'électricité, le plus grand spéculateur sur le blé, le président de la Bourse de New York, le président de la Banque des Règlements Internationaux, le directeur du plus grand monopole mondial. Ces personnes, ensemble, contrôlent plus d'argent que le trésor public américain de l'époque. Donc on dirait aujourd'hui le budget de l'État. Donc sept personnes qui brassent un budget supérieur à celui des États-Unis. Donc des hommes à succès, des hommes qui ont réussi dans la vie. Et on regarde un peu 25 ans plus tard. Donc nous sommes en 1948, la Deuxième Guerre mondiale est passée. Qu'est-ce que sont devenus ces gens? Alors Charles Schwab, le roi de l'acier, il a vécu les 5 dernières années de sa vie à crédit et il est mort dans la misère. Arthur Cougar, le spéculateur, s'est suicidé. Richard Whitney, le boursier, a passé 3 ans sous les verrous. Albert Fall, le membre du cabinet présidentiel, est allé en prison pour corruption. Léon Fraser, le banquier, a mis fin à ses jours par balle. Et Ivan Kruger, l'homme d'affaires, s'est suicidé également. Des hommes qui avaient réussi leur vie, qui se glorifiaient de leur succès dans la vie. Et voilà ce qu'ils sont devenus 25 ans plus tard. Alors que Dieu nous dit dans la Bible que celui qui se glorifie de me connaître. Et nous lisons aussi dans la parabole du riche insensé que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Donc ces gens avaient réussi dans la vie, mais en fait on pourrait se poser la question, qu'en est-il de réussir sa vie? Vous voyez la nuance, réussir dans la vie, réussir sa vie. Ce que Jésus a dit aussi, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alors j'aimerais vous poser la question ce matin. Qui aimerait réussir sa vie? Levez la main. Qui voudrait réussir sa vie? Ah, il y a des gens qui ne lèvent pas leur main. Bon, écoutez. Qui aimerait réussir sa vie? C'est une question qu'on peut se poser. Réussir sa vie pour que plus tard faire le bilan et dire, bon, ok, tout n'a pas été parfait, ma vie n'a pas été parfaite, elle n'a pas été un long fleuve tranquille, mais pouvoir dire peut-être un peu comme l'apôtre Paul qui écrivait à Timothée dans sa deuxième épître, hein, lui, l'apôtre Paul, qui reconnaissait ses faiblesses, qui disait, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Christ, eh bien voilà ce qu'il écrit à Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Voilà, qui aimerait dire ça? Ce n'est pas par orgueil que Paul le dit, parce qu'il reconnaît ses faiblesses. Mais à un moment donné, il a reconnu que quelque part, malgré toutes ses chutes, malgré le fait que pendant des années il était pharisien, il a persécuté l'Église de Dieu, eh bien, il a reconnu qu'il a combattu le bon combat. Et j'aimerais avec vous, donc, ce matin, voir le modèle, le secret peut-être, pour réussir sa vie, qui nous est donné par le Seigneur Jésus lui-même. Et nous allons donc ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Jean au chapitre 15. Ce fameux chapitre 15 de l'Évangile de Jean qui va clore aujourd'hui notre série des sept « Je suis » de Jésus. Donc pendant que c'est la flèche de droite, Maxime. c'est celle du milieu. Ici, ah, il faut que j'allume. D'accord. On va parler du cercle des serments. Tiens, pendant que tu es là-bas, est-ce qu'on pourrait éteindre éventuellement les lumières? Parce que c'est un message qui est particulièrement difficile pour moi et j'ai pas mal d'illustrations. Il faudra qu'on puisse les voir au tableau. On va voir le secret, finalement, de la seule vie qui vaille la peine. C'est la vie qui glorifie le Père et qui permet donc de mener cette... de réussir cette vie. Jean chapitre 15 nous dit quoi en résumé ? Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Vous êtes les sarments, c'est-à-dire nous sommes les sarments. Jésus parle à ses disciples, mais nous sommes ses disciples, du moins pour la plupart, j'espère, ici. Vous porterez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Voilà l'enfilade d'une vie secrète réussie. Alors, je la fais un peu à la Colombo aujourd'hui. Je vous donne la solution dès le départ. Hein, Colombo, il faisait comme ça. On avait toute la solution, puis après, on déroulait. Ben là, vous avez la clé d'une vie réussie. C'est de comprendre que Jésus est le cep, comprendre notre position, comprendre comment on peut porter beaucoup de fruits, et on verra cette notion « sans moi, vous ne pouvez rien faire » qui a été bien développée par Nasser, pour que le Père soit glorifié. Et là, on sera ses disciples. Donc vous avez toute la solution, et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça. Donc nous allons lire Jean chapitre 15, et on va lire, alors on va limiter la lecture jusqu'au verset 11, je n'aurai pas le temps de traiter tout le chapitre, mais on va se cantonner sur ces premiers versets. « Moi je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Certains ont pur hein, dans leur Bible. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voilà, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi, devant cette parole extraordinaire que tu as un jour donnée à tes disciples, mais déjà par avance, tu voulais la distribuer aux disciples du monde entier qui croiraient après. Nous en sommes les bénéficiaires, Seigneur. Nous voulons recevoir cette parole comme vraiment la parole venant de toi. Et nous te prions, Seigneur, pour que cette parole puisse s'éclairer, qu'elle puisse porter du fruit pour chacun de nous. Seigneur, que je te prie vraiment que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles au travers de moi. Et que mes frères et sœurs ici soient encouragés par ta parole, parce que c'est toi qui es digne d'être glorifié. Amen. Donc c'est le dernier « Je suis » de Jésus, et on est ici donc depuis trois chapitres, on est dans l'intimité du Maître. L'enjeu de ce texte est très important puisqu'il permet de voir comment tout être humain qui est sauvé par le sang de Jésus, on en a parlé tout à l'heure, comment tout être humain sauvé peut vivre une vie authentique de disciple qui va glorifier le Père. C'est ça, finalement, l'enjeu. Et Jésus a un objectif final, c'est de définir qui est le disciple. Attendez, je vais revenir après. Jésus a pour objectif de définir qui est le disciple. Et le disciple, c'est pas forcément celui qui s'appelle chrétien. C'est pas forcément le membre d'église. C'est pas forcément celui qui a été baptisé. n'est pas forcément celui qui est admiré par les autres, qui rencontre le succès, qui a des titres, des docteurs universitaires, etc. Le disciple, c'est celui qui est en relation intime avec Jésus et le Père, et celui qui porte du fruit. C'est tout simple. Alors on va revenir un petit peu en arrière, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc dans cette série de 7 Je suis, on a vu un certain nombre de Je suis, et je vous ai mis en face les messages clés. Qu'est-ce que Jésus finalement nous donne au travers de ces 7 Je suis ? Je suis le pain de vie dans Jean 6. Hein, Jésus s'identifie à des symboles connus de l'Ancien Testament. C'est la manne pour le pain de vie, c'est la nuée lumineuse qui conduisait Israël dans le désert en Jean 8. Il s'identifie aux bergers d'Israël, il y avait beaucoup de mauvais bergers qui conduisaient mal le peuple, voir le texte d'Ézéchiel. Hein, et il nous donne on a vu ça il y a quelques semaines, il nous a vu le test du responsable. C'est quoi le bon responsable d'Église ? À quoi il doit ressembler selon Jésus ? Et puis on a vu la résurrection, Jésus endosse cette fois-ci le fait, un concept philosophique grec qui ne voulait rien dire pour les Grecs. Il dit « Moi, je suis la résurrection » et c'est le test de la foi. Est-ce que tu crois cela ? La question nous était posée. Et enfin, il y a 15 jours, on a vu que Jésus était le seul chemin vers le Père. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui nous disent qu'on peut accéder à la religion, on peut accéder à un état suprême, on peut accéder à la sérénité. La full mindfulness, pour ceux qui connaissent, fait fureur en entreprise pour être zen, pour se détendre, etc. Et Jésus nous dit que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Voilà, donc c'est juste un rappel. Aujourd'hui, on est dans le chapitre 15 de Jean et on va voir un petit peu ce texte en particulier. Avant d'entreprendre ce texte, je voudrais traiter deux choses avec vous qui vont permettre de rentrer dans le détail. La première chose, c'est bien comprendre le contexte. Pourquoi est-ce que Jésus, à ce moment-là, prend ses disciples et leur donne cet enseignement qui est un des enseignements les plus importants pour la vie chrétienne d'aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que Jésus le fait à ce moment-là ? Comment il le fait ? On va le voir. Et la deuxième chose, c'est que Jésus va utiliser un symbole qui est la vigne. On va voir que c'est une métaphore. Et pour bien comprendre cette métaphore, on va faire un petit aparté d'agriculture et de botanique. Parce qu'il est important de comprendre comment fonctionne une vigne pour comprendre la portée du message de Jésus. Ok ? Allez, vous êtes prêts ? On embarque ? Alors, pourquoi est-ce que Jésus nous parle finalement de quelle est l'intention de Jésus lorsqu'il présente cette métaphore de la vigne ? Eh bien, le contexte, comme je vous ai dit, c'est que les disciples sont dans la chambre haute depuis 3 chapitres. Ils ont quitté la foule, ils sont isolés, et c'est en quelque sorte l'entretien testament de Jésus. Il a pour quelques minutes, quelques heures peut-être encore à être avec ses disciples, il sera arrêté après, jugé par un procès truqué et ensuite crucifié. Donc Jean chapitre 15 se passe vraiment dans l'intimité de Jésus avec ses disciples. Le brouhaha de la foule est loin, Judas est sorti, et même les questions des disciples à ce stade se font rares. Pour ceux qui ont une Bible où les paroles de Christ sont en rouge, eh bien on est dans une double page où tout est écrit en rouge. Les disciples ne parlent pratiquement plus. Pourquoi ils ne parlent plus ? Bah parce que c'est trop pour eux. Les disciples sont complètement abasourdis, ils sont complètement à l'ouest, si j'ose dire. Pourquoi ils sont à l'ouest ? Eh bien, tout simplement parce que, faut comprendre le contexte dans lequel ils évoluent. Ces disciples ont suivi Jésus, ils ont tout abandonné, prenons l'exemple de Pierre. Ils ont tout abandonné et ils suivent un maître. Ils voient des miracles, ils voient que Jésus a de plus en plus de succès, ils voient que Jésus bouscule les pharisiens, alors ils devaient se dire, les pharisiens, ils exagèrent un peu, ils en profitent. Donc voilà quelqu'un qui va nous sauver, qui va prendre la tête de notre peuple. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Ben là, Jésus, après ce magnifique épisode de la Transfiguration, il leur dit, je vais mourir, je vais partir. Zut, qu'est-ce qui se passe ? Il prend la scène avec eux, il dit, je ne boirai plus du fruit de cette vigne. Et puis après, juste un peu avant, ils sont là, ils sont rentrés dans la chambre haute, et là Jésus se déshabille, il prend un linge, il prend ses vêtements, il se met à nu à genoux et il lave les pieds de ses disciples. C'est inconcevable pour un rabbi de l'époque. Il le prenait pour un rabbi, quelqu'un qui part. Et là, Jésus se déshabille. Et puis il leur dit, le plus grand, c'est pas celui qu'on croit, c'est celui qui sert. Et puis ensuite, il leur dit, il y a un traître parmi nous. Ils voient sortir Judas, mais ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Judas, il sort? Et puis ensuite, au chapitre 14, il leur dit, je m'en vais, mais je vais vous préparer une place dans la maison du Père. Il faut imaginer que Dieu, c'était le Dieu sur la montagne du Sinaï, la montagne qui tremblait. Et là, Jésus leur dit, le Père, il est tout proche, vous prépare une maison, une place là-haut. Et puis, il leur donne un commandement nouveau. C'est quoi ça, un commandement nouveau? On a appris les 10 commandements. Depuis des siècles, le peuple est conduit par 10 commandements. Et là, il nous donne un commandement nouveau. Ils sont complètement à l'ouest. Il faut comprendre l'état dans lequel ils sont. Ils ne comprennent plus rien. Ils sont complètement abasourdis. Et je me dis que les paroles de Jésus sont tellement puissantes et profondes, ils n'ont pas dû peut-être les saisir. Ils ont dû y revenir. Et ça, le Saint-Esprit leur a rappelé. Jean a rédigé son évangile. Donc voilà, les disciples sont un petit peu abasourdis et ils ont quitté la chambre haute. Probablement, ils se dirigent à ce moment-là, au moment du passage, ils se dirigent vers le jardin de Gethsémané. Alors peut-être qu'ils sont passés à proximité du temple. Et dans le temple, ben, vous voyez ici, vous avez la porte qui sépare le parvis du lieu saint. Vous voyez, il y a énormément de sculptures de vignes en or, hein, dont certaines, vous voyez, par rapport à la taille des gens, certaines ont la taille quasiment d'un être humain. Donc peut-être qu'ils sont passés devant et ça inspire à Jésus le fait de parler de la vigne. Ou peut-être qu'ils sont sortis de Jérusalem, ils ont traversé le torrent du Cédron, hein, vous savez qu'il faut traverser le torrent pour aller au jardin de Gethsémané, et là ils sont passés auprès d'un vignoble. Et Jésus utilise beaucoup des symboles pratiques. Il prend un semeur, il prend un vigneron, il prend beaucoup de métiers de l'époque. Il utilise ces symboles pour faire passer des messages. Donc voilà, il se dirige vers le jardin de Gethsémané. Jésus sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Parce qu'en chapitre 17, il va leur dire, l'heure est bientôt venue. Et pourtant, il a encore beaucoup de choses à leur dire. Et notamment, le fait que lorsqu'il sera parti, comment est-ce que ses disciples ne seront pas livrés à eux-mêmes, mais seront pleinement en relation avec lui. Et c'est vraiment le chapitre qui nous parle de la relation. Et la relation, pour Dieu, c'est quelque chose de capital. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'être humain pour être en relation avec lui dans le jardin. Il faut comprendre que le péché a rompu cette relation, et depuis, l'être humain est livré à lui-même. C'est ce que Nasser nous a dit. On essaye de se débrouiller par nous-mêmes. Et souvent, on échoue. Donc ce que Jésus veut leur faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, c'est la relation avec lui qui va compter. C'est pour ça qu'il insistera, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc voilà, Jésus va à peu de temps, il prépare son départ imminent, il prépare ses disciples à de nouvelles responsabilités. Et quelles responsabilités ? C'est eux qui vont être chargés de diffuser la parole de Dieu dans le monde entier. Vous rendez compte de la responsabilité? Si on est là aujourd'hui, c'est parce que ses disciples ont été préparés par le Maître dès le départ pour pouvoir transmettre la parole dans des conditions difficiles avec beaucoup de courage. Et puis, il est aussi en train de changer de dispensation. On y reviendra tout à l'heure. Parce qu'il vient d'instaurer la scène et il leur a dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Les disciples, à ce moment-là, sont encore sous l'ancienne alliance. Et là, il doit instaurer la nouvelle alliance. Donc un gros programme pour Jésus, ce qui explique l'importance de ce texte. Alors pourquoi avoir choisi la vigne? C'est intéressant. C'est quoi la vigne dans la Bible? C'est quoi? C'est le symbole de quoi dans la Bible, vous le savez? La vigne? Oui, c'est un des symboles d'Israël. C'est un symbole très connu. Vous voyez, il y en avait sur le temple. Donc les Israélites, bon, ils ne passaient pas le lieu saint. C'était réservé aux sacrificateurs. Mais quand ils étaient dans le parvis, ils voyaient cette cour, ils voyaient la vigne, ils savaient ce que c'était. Il paraît même que du temps des Maccabées, là, à peu près au IIe siècle avant Jésus-Christ, les Maccabées avaient frappé de la monnaie où il y avait un symbole de vigne sur la pièce de monnaie. Donc c'est un symbole qui était très connu. Et c'est un symbole qu'on retrouve beaucoup dans l'Ancien Testament. Donc je ne vous lirai pas les textes, mais pour ceux qui prennent des notes, dans le livre d'Ésaïe, par exemple, on parle de la vigne, Ésaïe au chapitre 5, dans le psaume 80, on a Ézéchiel 15, il y a plein de textes qui parlent de la vigne. Et il faut savoir que la vigne, dans l'Ancien Testament, est toujours associée, enfin, n'est jamais glorieuse, est toujours associée à un échec. La vigne est toujours un symbole d'échec, c'est-à-dire, en Ésaïe chapitre 5, Dieu dit que il avait mis son espoir dans Israël la vigne, et la vigne n'a produit que des raisins infects. En Jérémie 2, 21, il nous est dit les boutures d'une vigne étrangère. Et donc, la vigne est un symbole d'espoir déçu. Ça, il faut bien le comprendre. Parce qu'il va donner une autre signification à la vigne. Vous connaissez peut-être la parabole des mauvais vignerons qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Vous savez, parabole des mauvais vignerons. Hein, vous avez le maître qui confie sa vigne à des vignerons, et puis il part, les vignerons ils traitent la vigne, ils récoltent le vin, il envoie des serviteurs pour prendre sa part du vin. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que font les vignerons? Ils battent les serviteurs d'abord, ensuite ils renvoient des serviteurs, ils les battent encore plus, et ensuite ils envoient son propre fils bien-aimé, et ils le mettent à mort. Donc là, les pharisiens comprennent bien de quoi il s'agit. La vigne est un symbole d'échec. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? Eh bien là, ça change. Jésus est le vrai cep et son père est le vigneron. Comprenez bien le changement d'alliance qui est en train de se produire. C'est qui le propriétaire dans la parabole des vignerons? C'est le symbole de quoi? Le propriétaire de la vigne, c'était qui? C'était Dieu. Dieu était le propriétaire. Les vignerons, c'était qui? C'était le peuple d'Israël à qui il a confié la vigne. Les serviteurs, c'est qui? Les prophètes qui ont été battus, d'accord? Et son propre fils, c'est le fils de Dieu. Donc, Dieu est le propriétaire dans l'Ancien Testament, les vignerons, c'est Israël. Israël échoue, il a échoué dans son symbole d'être la lumière des nations. Il a produit que du raisin infect. Donc Dieu, face à cet échec, il n'est pas démuni, parce que Dieu est de toute éternité, il a tout prévu. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend lui-même. Il n'est plus le propriétaire, il est le vigneron. Le vigneron, c'est qui? C'est celui qui prend soin. C'est celui qui est chargé d'amener du bon fruit. Si Israël est incapable d'amener du bon fruit, eh bien Dieu prend la place et il devient le vigneron et il plante un cep en terre. Et Jésus est le cep. Comprenez ce changement d'alliance qui est en train de se produire là au chapitre 15 de Jean. Et c'est pour ça qu'il dira « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Parce qu'Israël a essayé. Ils avaient plein de bonnes volontés, ils ont échoué. Nous, quand on fait par nous-mêmes, souvent, moi, quand je fais par moi-même, j'échoue. Alors Dieu dit « C'est pas grave. Je sais que tu échoues parce que le péché est là. Mais moi, j'ai une solution pour le péché. Je prends un cep, je plante le cep. Et moi, je suis le vigneron. » Alors, je vous ai mis un cep. Je voulais vous en amener un, mais c'est difficile quand même. Puis, il y a des ceps qui valent un peu cher quand même. Donc, on ne va pas acheter un cep de terre. Mais regardez comment c'est fait, un cep, pour ceux qui ne l'ont pas vu de près. Premièrement, un cep, ce n'est pas très grand. Ça fait entre 30, peut-être, maximum 1 mètre. C'est un bois qui n'est pas beau. Vous voyez, c'est pas beau. D'ailleurs, on ne fait rien de la vigne. Dans Ézéchiel, il nous est dit, la vigne est propre à rien du tout. Est-ce que vous avez chez vous des meubles en bois de vigne? Qui a des meubles en bois de vigne? T'as un meuble en bois de vigne? Ça, il faudrait que tu me le montres.
C'est les pieds d'une table.
Ah, les pieds d'une... Oui, c'est vrai que ça peut servir de pied, c'est vrai. On peut avoir des trucs assez droits. Mais globalement, ce n'est pas un bois noble. Autant l'olivier, qui est un autre symbole d'Israël, est un bois noble. On a des plants en olivier. Vous voyez? C'est quelque chose d'assez tortueux. Et puis vous voyez, ici, là, on voit des... Alors, c'est le projecteur qui est trop... On voit des petites cicatrices, là, parce que ce bois, il a été taillé, il est tortueux. Je vais vous en montrer une autre de photo. Vous voyez? Alors pareil, on a un pied de vigne, vous voyez, déjà, ça pousse dans un terrain aride, très souvent, un terrain pierreux. Et Le bois est très très tortueux, il n'est pas droit, on n'a pas un beau tronc comme un hêtre. Donc c'est pas très beau, on ne peut pas en faire grand chose. Donc où est la valeur du bois de vigne? Il est dans les fruits, il est dans ce qu'on produit. Quand vous allez, par exemple, chaque année aux hospices de Beaune, à la vente des hospices de Beaune, vous avez des bouteilles de vin qui atteignent des sommes faramineuses. La valeur, elle est dans le fruit, elle est dans la sève qui coule. Et c'est étonnant de voir, moi je suis émerveillé quand je regarde ça, je suis émerveillé que Dieu ait trouvé un symbole. Il a créé la vigne en fait pour illustrer Jean 15. Moi j'en suis persuadé. Vous voyez, parce que dans Ézéchiel, il nous dit on ne peut rien en faire. Et je fais référence à un texte par rapport à ce que je vous ai dit. Le texte d'Ésaïe 53. Quand vous pensez que Jésus dit « Je suis le cep », et quand on regarde ce qui nous est dit de Jésus en Ésaïe 53, ben je trouve qu'il y a vraiment de la ressemblance. Donc le bois de vigne, l'importance du bois de vigne est dans la relation, dans la qualité de la sève qui coule à l'intérieur. Ça, c'est important à comprendre. Ce changement d'alliance, ce contexte et la... On continue. Alors, vous voyez, ça, c'est un bois de vigne en hiver. Qu'est-ce qui se passe en hiver? Il n'y a plus rien. On a coupé les feuilles. Vous voyez, ici, on a taillé un certain nombre de branches et il reste une branche principale qui est un sarment. Alors, vous voyez, ici, on a une différence. Vous voyez, l'aspect. On a un aspect qu'on appelle un peu ligneux qui desquame... Vraiment, on dirait une vieille peau, vous voyez, qui desquame. Et puis ici, on a un jeune cep. Voilà. Donc on est comparé au sarment. Le mot sarment en grec, ben, ça signifie très souvent la jeune pousse. Pas toujours, mais le plus souvent, ça signifie la jeune pousse. Donc voilà, vous voyez ce que c'est qu'un cep et un sarment. Pour ceux qui n'ont pas vu une vigne de près, j'imagine que tout le monde est allé dans le sud de la France. Donc quand vous passez Vienne, vous avez à droite des super coteaux, Condrieux, Côte Rôtie, à gauche Gigondas, ensuite Châteauneuf-du-Pape. Mais on ne passe jamais près d'une vigne. Donc là, vous avez en direct ce que c'est qu'une vigne et comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vigne de temps en temps? Alors vous avez ici le pied de vigne, ici, là. Vous voyez, vous avez un pied de vigne, un rater, et puis là vous avez une toute petite jeune pousse qui sort et vous voyez qui produit quelques feuilles. Ça, c'est une jeune pousse. On y reviendra tout à l'heure dans l'interprétation du texte. Hein. Notez ça. Et alors voilà une autre image. Vous voyez, le cep, il est là. Et vous voyez qu'ici, alors on retrouve ici une cicatrice, par exemple, hein, de taille. Et puis vous avez vu ici, vous avez une jeune pousse, pareil. D'accord? Une jeune pousse dont l'aspect est très différent. Mais vous avez ici, regardez, là, vous avez deux pousses qui partent, qui sont certainement des sarments un peu plus âgés. Et vous voyez que le sarment qui est un peu plus âgé, il a tendance à prendre de plus en plus l'aspect du cep. C'est extraordinaire, non? Comme image. Le chrétien qui mûrit dans la foi en relation avec le maître tend à ressembler de plus en plus à son maître. Ça, c'est le chrétien âgé qui a beaucoup de cicatrices. La vie est passée par là, la vie a été dure, et là, il prend l'aspect de son maître. Parce que le but, c'est ça, c'est qu'on reflète la gloire de Christ quelque part. Et vous voyez, dans l'image de la vigne, eh bien, vous avez à la fois le cep, vous avez d'autres sarments, et puis vous avez des jeunes sarments. Et le but de tout ça, c'est de porter du fruit. C'est extraordinaire, je trouve, comme image. Voilà un autre cep. Vous voyez, vous avez donc d'anciens sarments ici en haut. J'ai plus d'énergie là. Enfin, vous voyez, ça se divise en V. Et vous avez deux sarments mûrs qui sont devenus complètement intégrés au cep. Et qui portent du fruit. Alors, on peut porter du fruit, on peut porter beaucoup de fruits, on y reviendra tout à l'heure. Et il y a la notion d'émondage. Alors, vous voyez, un autre cep ici. Vous voyez, on a coupé là toutes les branches. On en a gardé une principale qui part vers la droite. Pourquoi? Parce que pour porter beaucoup de fruits, il faut émonder. L'émondage, c'est le coup de sécateur. On y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, l'émondage? Et je reviens au message clé que je voulais vous donner pour aujourd'hui. Mais comme le temps passe, j'espère qu'on ne va pas être... Waouh, on a commencé tard. Voilà le message clé de Jésus. C'est la relation. Et pour bien leur faire comprendre la relation, il va utiliser... cette métaphore. cette métaphore de la vigne. C'est quoi une métaphore? Eh bien, c'est tout simplement, on va, méta, c'est, ça signifie porter d'un endroit à l'autre, et phoros, ça veut dire porter. Ça veut dire qu'on va prendre un thème et on va le transposer. Jésus prend le thème de la vigne et il le transpose à la relation avec ses disciples. Quand Nasser nous parle d'un jardin pour deux, il utilise une métaphore. La métaphore du jardin. Le jardin, c'est quoi? C'est pas le jardin de Nasser, même si tu dois avoir un beau jardin. C'est la relation qu'on cultive dans le couple. Voilà. Une métaphore, c'est ça. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus là-dessus, parce qu'il faut qu'on continue. Donc le message clé, il est là. Si on comprend la manière dont fonctionne le cercle, on comprend comment fonctionne notre relation avec Jésus. Et le but, c'est de glorifier le Père. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie. Faire des programmes, faire des études, des années d'études bibliques, ce que vous voulez. Faire un institut, passer une thèse en théologie. L'objectif final d'une vie réussie, c'est de glorifier le Père. Donc vous pouvez, je peux me poser la question, est-ce que ce que je fais, ça rend gloire au Père? Sinon, ce n'est pas la peine. On peut faire des tas de choses. On peut tomber dans l'activisme, mais c'est glorifier le Père en portant du fruit. On y reviendra tout à l'heure. Alors, j'ai juste repris le texte biblique. Vous voyez, c'est une métaphore imbriquée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une parabole. Jésus va raconter une histoire et il explique la parabole. Là, on a des allers-retours permanents. Vous voyez ? C'est pour ça que le texte est compliqué. Il est simple à lire, il est simple à comprendre, mais il est compliqué pour aller dans le détail. Donc on n'ira pas dans un grand détail, je vous ai fait quelques schémas de simplification pour essayer de comprendre quelle est l'importance du texte. Donc vous voyez, ça passe toujours d'un moment à l'autre. On prend la vigne et il y a l'application qui vient directement. Hein, si vous voulez, je vous donnerai cette image. Ce que je vous conseille, c'est ce texte-là, relisez-le à la maison. Reméditez-le, parce qu'il est tellement important, on ne pourra pas passer beaucoup de temps aujourd'hui là-dessus. Et il y a notamment deux verbes, deux mots ici qui sont importants. Le mot « émondé », on y reviendra tout à l'heure. Alors, pour ceux qui ont « pur » dans leur version, je vous ai mis, c'est le même mot grec ou la même racine, c'est le mot « émondé ». Déjà, vous êtes émondé à cause de la parole. Et puis, il y a un deuxième mot qui pose problème, c'est ce mot « retranche ». On y reviendra tout à l'heure, parce que ça a suscité beaucoup de controverses. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail de la controverse, mais on reviendra sur ce mot tout à l'heure, ce mot grec « aéro », retranche, qui est traduit « retranche » dans la plupart des versions et qui n'est peut-être pas tout à fait ça. On verra plus tard. Alors, reprenons un petit peu ce que Jésus, en résumé, veut dire dans son texte. « Tout sarment qui est en moi ». Donc, il part du sarment qui est en Jésus, qui a relation avec Jésus, il est avec ses disciples. Donc, c'est un passage qui s'adresse aux disciples. D'accord ? Il ne s'adresse pas à la foule. La foule, c'est le chapitre 12. Il a quitté la foule. Là, il parle aux disciples. Donc, on part du sarment qui est uni à Jésus, c'est-à-dire qui est en lui, qui professe au minimum Jésus, qui a accepté le sacrifice de Jésus, qui a eu le pardon de ses péchés, qui a reçu la vie éternelle et tout un tas de choses lors de la conversion. Ce sarment, son unique but, comme je vous ai dit, c'est quoi ? C'est glorifier le Père. C'est notre vocation. Même si Jésus a donné cette grande mission au commandement, allez et faites de toutes les nations des disciples, le but c'est de glorifier le Père. Et là on est un disciple. Comment on fait un disciple? Tout simplement en l'amenant à glorifier le Père. En lui expliquant et en l'aidant à comprendre comment il peut glorifier le Père. Voilà. Et donc pour ça, eh bien, il faut demeurer. Il faut demeurer. Alors ça veut dire quoi, demeurer? C'est très important. Comprenons. Qu'est-ce que ça veut dire? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. La première chose pour comprendre ce mot demeurer, c'est il y a un acte volontaire. C'est très souvent dans la Bible, Jésus nous demande de faire le premier pas. Par exemple, dans Apocalypse 3:20, c'est voici je me tiens à la porte et je frappe. D'accord? Jésus frappe. Il ne va jamais forcer la porte. Jésus frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, je rentrerai. Je viendrai, je souperai avec lui. Mais si vous n'ouvrez pas la porte, Jésus ne force pas la main. Donc je pose la question ici à la salle, est-ce que chacun de vous a ouvert la porte à Jésus déjà? Est-ce que vous avez ouvert la porte à Jésus en disant « Jésus, j'ai besoin de toi, viens dans ma vie pour pardonner mes péchés, ma vie est vaine, elle ne conduit à rien aujourd'hui, j'ai essayé de vivre par moi-même, j'y suis pas arrivé, ma vie est vaine, je viens à toi. Comme c'est cet homme le plus riche du monde, peut-être ils auraient pu à un moment donné ouvrir la porte. Donc il y a une... c'est volontaire au départ. Si vous demeurez en moi, et alors je demeurerai en vous. C'est pas je demeurerai en vous, je vais vous forcer la main. Non, c'est demeurez en moi, vous voulez demeurer, et je demeurerai en vous. Ok, c'est volontaire. Deuxième point, demeurer, c'est pas comprendre intellectuellement, c'est pas apprendre des choses, c'est pas faire forcément un institut biblique en comprenant l'interprétation des textes les plus compliqués, c'est juste connaître une personne, connaître Jésus-Christ, le connaître intimement. C'est qui Jésus-Christ? C'est pouvoir répondre à la question, qui est Jésus pour moi? Ensuite, c'est prendre du temps avec lui. Il ne s'agit pas de juste le connaître. Quand on aime quelqu'un, quand on est fiancé, quand on est marié, on aime passer du temps avec la personne avec qui on est. Donc c'est prendre du temps. Ensuite, c'est une relation de qualité. On a parlé tout à l'heure de la relation avec la vigne. Il faut que la sève coule dans les deux sens, qu'elle parte du cep et qu'elle coule vers les sarments. Et enfin, c'est une relation permanente. D'accord ? C'est pas juste, de temps en temps, je lis ma Bible, j'ouvre la Bible quand j'ai le temps, mais bon, comme j'ai pas beaucoup de temps, peut-être une fois par semaine, ça suffit, je viens au culte. Non, c'est pas ça, c'est permanent. Voilà. Donc, demeurer en moi, ça veut dire tout ça. Alors, j'ai pas le temps de développer ce mot, c'est quasiment l'objet d'un message entier. Si quelqu'un veut le reprendre, c'est avec plaisir. Moi, je vous donnerai juste trois pistes pour demeurer. Premièrement, c'est avoir accepté Jésus dans sa vie. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Est-ce que chacun de nous ici avons accepté Jésus, dit oui à Jésus? Si vous n'en êtes pas sûr, venez me voir, venez voir l'un des anciens de l'Église et il vous conduira dans la compréhension de tout ça. Le deuxième point, c'est demeurer dans sa parole. Alors vous savez, c'est un peu mon leitmotiv, la parole de Dieu. Hein, c'est la Bible qui... C'est la lecture de la Bible qui transforme. Hein. Nasser a été, il l'a dit tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ce témoignage, il a été transformé. Parce que la Bible, ce n'est pas juste des lettres, des mots, c'est la parole de Dieu, c'est une puissance de Dieu, disait Paul, pour le salut de quiconque croit. Donc la Bible transforme. Si on demeure, c'est demeurer dans sa parole. Et c'est la parole, Jésus a dit à ses disciples, déjà vous êtes émondés, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole qui fait son effet. Donc c'est ça, demeurer dans sa parole. Et la troisième piste, eh bien, c'est laisser la sève du Saint-Esprit couler. Et là, il y a beaucoup de textes dans la Bible, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est écouter la petite voix intérieure du Saint-Esprit qui nous parle dans la manière avec laquelle on doit être en relation avec le Père. Donc voilà, demeurer, très rapidement, je n'ai pas le temps de d'étendre un peu plus. Donc, première piste, demeurer. Deuxième piste, c'est le fruit. C'est quoi le fruit? Alors le fruit, très souvent, malheureusement, on va le réduire, par exemple, à l'évangélisation. On va dire, il faut que tu témoignes, il faut que tu fasses des grandes campagnes, il faut que tu t'engages. Alors je ne dis pas que c'est très important l'évangélisation. On a un cœur pour Lyon, on a la kermesse, on va essayer d'annoncer l'évangile. Mais le fruit, c'est plus que l'évangélisation. Parce que l'évangélisation, il y en a qui ont des dons pour ça. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ont d'autres dons. Donc porter du fruit, c'est en fonction de ses dons. En fonction des dons que Dieu vous a donnés. Et là, je pose la question, est-ce que vous les connaissez, vos dons? Est-ce que vous pouvez dire, sans fausse humilité, sans fausse gloire, je suis sauvé par Jésus-Christ, et Jésus-Christ m'a équipé d'un certain nombre de dons. Et j'ai ce don et ce don. Est-ce que vous êtes capable de le dire? Parce que porter du fruit, c'est par rapport à son don. Si votre don, c'est pas l'évangélisation, c'est difficile, ça sera difficile de témoigner. Mais si vous avez un don d'organisation, si vous avez un don pastoral, un don d'accueil, un don de générosité, de libéralité, relisez la liste des dons, eh bien chacun a un don, et porter du fruit, c'est en fonction de son don. Dieu ne va pas vous demander de faire des choses pour lesquelles il ne vous a pas équipé. Alors comment il fait pour porter beaucoup de fruits? Comment est-ce qu'on fait pour porter du fruit? Plus de fruits, beaucoup de fruits. Hein. Vous noterez dans le texte la progression, je n'ai pas le temps d'y revenir. Eh bien, il fait une action qui s'appelle l'émondage. L'émondage, c'est quoi? Ben, on a vu, c'est le coup de sécateur. C'est le coup de sécateur, c'est-à-dire, c'est un acte non pas difficile. Je sais pas, j'ai taillé mes arbres là cette semaine, c'est un peu tard, je sais, mais pourquoi je les taille? Parce qu'il y a des branches mortes, Parce que, l'émondage, c'est une action de purification pour augmenter le rendement et la qualité. Quand on a planté notre prunier il y a 7 ou 8 ans, la deuxième année, il a explosé. Il était plein de fleurs. Et alors, ça a donné un nombre de fruits, les branches, elles cassaient presque. Alors, on s'est réjouis, super, il y a beaucoup de fruits. Sauf que l'année suivante, il n'y avait quasiment rien. Il s'était tellement épuisé qu'il ne produisait plus rien. Donc, l'émondage, ça sert à couper ce qui est mort pour que ce qui reste puisse être plus vigoureux, capte la majorité de la sève et donne du fruit de qualité. Et vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, la qualité du raisin, c'est le vin, c'est la qualité du jus qui fait qu'à un moment donné, le vin sera bon ou pas bon. Alors l'émondage, là non plus, je n'ai pas trop le temps encore, mais il y a un texte clair dans le livre d'Hébreux qui nous parle que Dieu nous châtie pour notre bien, il nous purifie pour notre bien, pour nous faire participer à sa sainteté. Je n'ai pas le temps d'aller plus en détail, mais vous regarderez la référence. Donc c'est quelque chose de purificateur et de positif. Et puis, porter du fruit, ça c'est un point clé. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et malheureusement, pour la plupart d'entre nous, et pour moi le premier, sans lui, je peux faire plein de choses. C'est malheureux, sans lui, je peux faire plein de choses. Sauf que parfois, je fais des choses et après, je me plante. Donc, je suis obligé de revenir à ça, de revenir à la réalité des choses, et juste de faire une pause, un stop, un temps mort. Seigneur, sans toi, je ne vais pas y arriver. Je te remets tout ça. C'est trop difficile pour moi. C'est trop difficile à porter. Je te le remets. Merci Nasser pour ce témoignage. C'est vraiment formidable ce que tu as dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour porter beaucoup de fruits, c'est la dépendance, encore une fois, la relation et l'intimité avec Jésus qui compte. Voilà donc le programme. Alors, il reste deux petits points à traiter rapidement. C'est les deux points difficiles. Le premier point au verset 2, c'est le mot « retranche ». Alors le mot « retranche », le mot « aéro » en grec, en fait, a deux significations. La plus fréquemment admise, c'est la notion de « relever » et « d'élever ». Par exemple, dans la parabole, vous savez, la parabole où les quatre amis vont porter le paralytique devant Jésus, il n'y a plus de place pour rentrer, il passe par le toit. Vous connaissez cette parabole ? Là, il y a le mot « aéro », c'est-à-dire que les quatre amis, ils « aéro » le paralytique. Et ensuite, ils le descendent, et Jésus lui dit quoi ? Il lui dit « lève-toi, aéro ton grabat et rentre chez toi ». Donc la notion d'élever, de relever. La deuxième signification, c'est celle qui est dans la plupart des traductions, c'est le mot « retranché ». Alors, j'ai bataillé longtemps sur ce texte, j'ai essayé de comprendre, j'ai consulté pas mal de références, j'ai demandé à des frères mûrs dans la foi, et aujourd'hui je ne suis pas capable de vous dire quelle est la bonne version. Mais je me dis, et Dieu m'a donné la paix, parce que vraiment j'ai crié à lui, j'ai dit « Seigneur, sans toi je ne peux rien faire, je ne peux pas parler sur ce texte parce que je ne sais pas quoi dire. C'est toi qui as dit ça, tu avais une intention mais je n'arrive pas à la comprendre ». Et Dieu m'a apaisé, Jésus m'a apaisé, il m'a dit, le plus important, c'est pas ça, c'est ça, demeurer. C'est demeurer et être émondé. C'est ça de demeurer, c'est d'être un disciple, c'est de glorifier le Père. Après, est-ce que tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche? Ok, si c'est ça, Jésus parle de Judas. Judas est un faux professant. À ce moment-là, tout serment qui est en moi, c'est dans le sens qui professe, qui me professe par la bouche, oui, je suis chrétien, etc. Mais Judas était un faux professant. Donc, qui ne porte pas de fruits, Judas ne portait pas de fruits, il volait dans la caisse, il le retranche. Ça peut être une première interprétation. La deuxième interprétation, tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le relève. Ça veut dire quoi? Vous vous souvenez du petit sarment, du petit pouce, là? Voilà, retranché et élevé. La petite pousse là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand il y a une pluie, quand il y a un gros orage, qu'est-ce qui se passe? Ça gicle, la boue est là, elle va venir recouvrir les feuilles. Du coup, le petit sarment, il va se trouver en difficulté. Il ne peut pas synthétiser de chlorophylle, il ne peut pas se développer. Donc qu'est-ce que fait le vigneron? Et ça, en Palestine, il le faisait. On prenait les sarments qui couraient par terre, on les relevait, on les attachait pour qu'ils puissent porter du fruit. C'est quelque chose de véridique. Et je me dis peut-être que dans ce cas-là, On parle de chrétiens qui sont peut-être jeunes dans la foi, qui ont des difficultés et qui ont besoin, à un moment donné, d'être élevés, d'être soulevés par le Père. Et ça, c'est biblique, parce que Dieu s'occupe de ces sarments. Dieu va chercher la brebis qui est perdue. Dieu va relever le paralytique. Il fait habiter les orphelins dans une maison, nous dit l'Ancien Testament. Donc ça peut vouloir dire ça aussi. Et vous voyez, je ne peux pas trancher. Mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance parce que le plus important, c'est de demeurer, c'est de rester attaché, c'est de porter du fruit, c'est d'accepter de se faire émonder et c'est de viser la gloire du Père. C'est ça le plus important. Le deuxième mot, c'est jeter dehors. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Ben, si c'est la première interprétation, c'est Judas, il est jeté dehors. Et Dieu jette dehors, parfois est obligé de jeter dehors. Alors, ce qui est important de signaler là-dedans, c'est que comme on est dans le contexte des disciples, il n'est pas question de perte de salut. Il y a beaucoup de gens qui associent ce texte à la perte de salut. Si vous ne portez pas de fruits, Dieu vous retranche, vous perdez votre salut. C'est faux, c'est pas vrai. Dieu parle aux disciples, ce sont des disciples qui sont sauvés. Il y a d'autres textes dans l'Évangile qui nous parlent de la perte du salut. Ce n'est pas la perte du salut qui est en jeu, c'est la discipline et le jugement. Et quand vous prenez des passages, par exemple, comme 1 Corinthiens 5, vous savez, Paul a posé le fondement, qui est Jésus-Christ, et chacun construit sur le fondement. Il construit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume. Et à un moment donné, l'œuvre de chacun sera jugée par le feu. Si on construit avec des matériaux qui ne sont pas nobles, de la paille, eh bien à un moment donné, le feu va balayer tout ça, il ne restera plus rien, l'homme sera sauvé comme au travers du feu. Ça peut être ça. On peut être sauvé et jeté dehors, brûlé, etc. Je ne rentre pas dans le détail parce que là, il y a le verbe brûler qui a un sens différent dans 1 Corinthiens 5 et dans Jean chapitre 15, verset 6. Je ne rentre pas dans ce détail-là. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que le salut n'est pas en jeu, mais par contre, il y a des récompenses. Et que parfois, Dieu peut isoler quelqu'un qui volontairement ne demeure pas en lui, qui est rétrograde, qui ne veut plus de rien, il est peut-être sauvé, mais comme au travers du feu. Voilà l'explication du jeté dehors. Et ce qui est important, c'est le petit « si » là, du verset 6. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi. » Vous savez qu'il y a plusieurs significations dans le « si » grec. Par exemple, lors de la tentation de Jésus, quand Satan dit à Jésus « si tu es le Fils de Dieu », il y a le mot « si » qui est utilisé, mais le mot « si » de la tentation de Jésus, c'est « comme tu es le Fils de Dieu, étant donné que ». D'accord ? Ici, le « si » exprime en grec la possibilité. C'est-à-dire, il est possible, ce que Jésus dit, il est possible que quelqu'un ne demeure pas en moi. Il est possible. Et là, peut-être, il parle de Judas. Il faut savoir que les disciples, à ce moment-là, ils n'ont peut-être pas bien compris le rôle de Judas. Ils l'ont vu partir et ils comprendront quand Judas arrivera en Jean chapitre 18 à la tête d'une cohorte pour enlever Jésus. Pour arrêter Jésus. Mais pour l'instant, ils ne savent pas. Ils ont vu partir Judas. Ils se disent, tiens, il est allé acheter des vivres, etc. Donc le « si », c'est « il y a vraiment une possibilité ». Ça veut dire qu'en tant que chrétien, on a vraiment une possibilité que si on ne reste pas attaché à Jésus, si on ne reste pas attaché à la communion de frères et sœurs, on peut s'isoler. Et si on s'isole, eh ben, on est en danger. Parce qu'on peut être jeté dehors, on peut sécher, et les sarments secs, ils ne servent plus à rien. D'accord, je vais vite là-dessus. Voilà un résumé rapide de ce que je viens de vous dire, de l'action du vigneron sur les sarments. Donc on retrouve mon ambiguïté ici sur, est-ce que c'est le non-professant Judas ou est-ce que c'est relever quelqu'un qui est dans le péché, qui n'arrive pas à bouger, etc. L'émondage, ça va attaquer le moi. Comment faire pour crucifier mon moi, ma volonté de vouloir faire les choses par moi-même et ne pas compter sur Dieu? Et enfin, le demeurer, je vous ai dit, c'est un acte volontaire. Et si on demeure en Jésus, eh bien, on crée une relation intime. On porte beaucoup de fruits et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors voilà, on a terminé donc cette étude. Je suis désolé, c'est un petit peu tard déjà. Mais on a terminé cette étude sur le 7 je suis de Jean. J'ai rajouté donc ici en bas le test du fruit. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est trois choses. Trois applications que j'aimerais vous laisser. Première application, quel est le fruit que je porte aujourd'hui? C'est une question que je me pose, c'est une question que je vous pose. quel est le fruit? Le fruit, c'est, par définition, visible. Qu'est-ce que les autres voient de mon engagement comme un disciple de Christ? Et l'autre question corollaire, c'est quels sont mes dons? Est-ce que je connais mes dons? Et est-ce que je suis engagé dans mes dons? Deuxième question, quand je passe par l'épreuve, et que, a priori, il n'y a pas de péché derrière, c'est pas moi qui me suis fourvoyé dans quelque chose, mais je passe par l'épreuve, c'est incompréhensible, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Est-ce que je me dis, peut-être que le Père est en train de démonter quelque chose en moi? Peut-être qu'il y a beaucoup de petites pousses, vous savez, où est-ce qu'il est, Louis? Les gourmands, hein, qui poussent sur les arbres, tu les enlèves, les gourmands? Hein, pourquoi? Parce que sinon, ils pompent toute la sève. Il vaut mieux que la sève aille dans les branches que dans les gourmands. Donc, on coupe des gourmands le long d'un tronc. Est-ce que j'accepte parfois que mes gourmands... Quels sont mes gourmands? Je sais pas, moi. Si je passe 3 heures par jour devant la télé le soir et que je dis que j'ai pas le temps de lire la Bible, est-ce que j'ai pas un gourmand télé à couper, par exemple? Est-ce que j'accepte d'être émondé par le Père parce que l'émondage est positif pour le bien et la qualité du fruit? Et la troisième question, c'est comment je demeure en lui? Comment je laisse la sève du Saint-Esprit couler ici, pleinement, du cep vers le sarment que je suis? Voilà, tout un programme pour Jean chapitre 15. Je vous remercie, je suis désolé d'avoir été un petit peu long. Et je vous rappelle le message clé, réussir sa vie, on a bouclé la boucle. Eh bien, c'est maintenir cette relation, parce que sans Jésus, on ne peut rien faire. Amen.
Merci Pierre pour ton message.